Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, figurez-vous, je ne sais pas si on peut appeler l'émission Contre-histoire ou Chronicard. Eh bien on va l'appeler les deux à la fois, puisque nous recevons aujourd'hui exceptionnellement un poète, chanteur, conteur, écrivain, musicien, rencontré il y a quelques semaines à l'Expo de la Garonne. Il s'agit de Charlot du Bois de Houx. Et il va se présenter lui-même. Je vous présente. Voilà, Charlot, merci d'être venu. Bonjour à vous. Et merci de préciser toutes ces notions que je ne possède pas vraiment. Alors, nous vous écoutons.
Donc, nous faisons... Ça marchait, oui.
Pardon, il y a eu un petit problème.
Ah, je recommence.
J'ai pas actionné toutes les.
Donc,
toutes les
j'ai.
Est-ce que vous pouvez vous reprendre votre propos, merci.
Alors voilà, donc je suis arrivé sur Toulouse il y a une trentaine d'années. Je suis originaire du Gers et avec une compagnie de spectacle, donc depuis 25 ans, nous mettons en scène le patrimoine. Je suis lauréat de l'Académie des Fleurons. J'ai eu cet honneur. J'ai écrit des contes et des chansons, et cette chanson qu'on vient d'entendre est une chanson traditionnelle, La Vache dans la Libelle, qui a une symbolique, alors c'est en occitan, c'est le symbole de la briolette. Alors la briolette, c'est le symbole de Toulouse, qui est la violette, la briolette en occitan. Alors je suis très curieux de l'histoire, de mes racines, et donc j'ai fait pas mal de recherches sur ce côté histoire. Donc puisqu'on a parlé des symboles, peut-être on peut enchaîner sur une chanson qu'on a faite sur mon deuxième CD, qui est Enfin le monde, qui est symbole justement, qui parle des trois symboles de Toulouse, qui sont la rose, la violette et le laurier. Et après, je parlerai un peu plus donc de Toulouse et de son histoire et de l'histoire de la Gascogne. Ça, c'est le CD, enfin le monde, le deuxième. Numéro 3. Donc, oui. Non, comme ça n'arrive. J'allais enchaîner comme ça n'arrivait pas.
Le laurier, au dieu des arts, fut porté par l'empereur César. Sous le laurier accueilli Isore, le lauréat le porte encore. Mais ce qu'il a bien reverdi, je voudrais le croire aujourd'hui. Mais ce qu'il a bien reverdi, je voudrais le croire aujourd'hui. Molivez et l'oulaurier, la briolette la rousée. Molivez et l'oulaurier, la briolette la rousée. Molivez et ses verdejos, molivez et ses florissons. Ses verdejos, ses florissons, que cantera lo que hizo. La violette est coquette, elle aurore bien la tête. Et bien avant le printemps, va au jardin florissant. Et l'amour du bonheur porte belle rose au cœur. Trois symboles pour la dame feront rejaillir la flamme. Molivez et l'oulaurier, la briolette la rosée. Molivez et l'oulaurier, la briolette la rosée. Molivez et ses verdejos, molivez et ses florissons. Ses verdejos, ses florissons, se fera bello picchu. Accueillir sous l'oreiller les plus belles de nos pensées, les quelques beaux refrains qui chantent dans notre tête, dans les jolis jardins refleurit la violette, de nos jolis jardins à refleurir la violette. Bolivé, c'est nous laurier, la violette la rousée. Bolivé, c'est nous laurier, la violette la rousée. Bolivé, c'est ces belles gens, Bolivé, c'est ces florissons. Ces belles gens, ces florissons, même farai au cazzo. Aussi glorieuse, s'unir à belle rose, afin que le poète soit toujours de la fête. A la belle laure gauso, si gigna belle rose, et dès que le poète soit toujours de la fête. Bolibé, c'est le laurier, la briolette la rosée. Bolibé, c'est le laurier, la briolette la rosée. Bolibé, c'est verdejo, Bolivé, c'est florisso, c'est verde, je sais florisso, dansera de la maison.
J'ai écrit cette chanson donc sur le thème du laurier parce qu'il y a une légende qui aurait maintenant peut-être 700 ans, qui était d'un troubadour, paraît-il, le dernier troubadour cathare, qui aurait dit « Au cap de 700 ans, ben, déjà là le laurier, au bout de 700 ans, reverdira le laurier. » Et donc on serait dans cette prédiction maintenant, donc au bout de ces 700 ans, où reverdit le laurier. Symbolique donc de la victoire, symbolique de la poésie, puisque c'était le couronnement des poètes, après le couronnement des médecins, ce qui a donné, puisque c'était la baie de laurier, qui a donné le baccalauréat, qui est aussi maintenant le couronnement des donc lauréats de, voilà, des lycéens. Et ça remonte, cette symbole du laurier, ça remonte au dieu Apollon, qui portait la couronne de laurier. Voilà. Donc c'est devenu toute une histoire à partir de cette mythologie qui est arrivée à nos jours, donc le laurier. Alors on a après donc la rose et la violette, donc la rose, symbole aussi de Toulouse, et la violette qui était le symbole de la spiritualité, et la violette c'était qui est devenu aussi le symbole donc de l'amour courtois des troubadours, et ça avait été amené par un soldat, je crois, donc la violette de Toulouse qui a été implantée, donc la fameuse violette à plusieurs pétales qui fait qu'elle est assez exceptionnelle au niveau du parfum qu'elle donne. Voilà, donc les symboles qui ont fait la renommée de Toulouse. Alors donc, je me suis intéressé à mes racines et à l'histoire, et je ne m'entends plus presque. Et comment sommes-nous devenus occitans? Comment sommes-nous devenus français, je veux dire, hein? Puisque ici, à Toulouse et dans ma Gascogne, puisque moi je suis originaire du Gers, dans le milieu de la Gascogne, petit village de Goutz, un village visigothique, à l'époque où justement il y avait les Visigoths à Toulouse, il y avait aussi les Visigoths qui avaient un château dans mon village, ça c'est vers le 4e siècle. Et donc nous étions ensuite de Languedoc, donc des peuples du sud, et Louis IX, qui a été appelé donc Saint-Louis, a eu une stratégie. En fait, il avait marié son frère avec la sœur du comte de Toulouse. Comme il avait eu les Orions, il se dit comme ça, il n'aura pas d'enfant, il n'en avait pas donc, et à sa mort, comme ça, là, le comté de Toulouse deviendra dans la corbeille de la France. C'est ce qui s'est passé en 1271. Donc, il meurt un an après son frère, donc un an après Louis IX, qui est mort d'une dysenterie à Tunis, pour sa dernière croisade. Donc, lui aussi, il meurt, peut-être empoisonné. Bon, ce n'était pas une mort naturelle, avec sa femme d'ailleurs. Et du coup, nous devenons français, nous devenons sujets français. Et donc, en Gascogne, nous étions vassaux du comte de Toulouse. Et donc, et bien ensuite, du fait que les grandes familles rentraient dans la tradition, l'aîné récupère le patrimoine, le second rentre au service du roi et le troisième rentre au service de l'Église. C'était la tradition. Et du coup, et bien, voilà, nous sommes français. Et Jean Ier d'Armagnac, donc un peu plus tard, Jean Ier d'Armagnac, comte d'Armagnac, et moi je suis dans mon village, le dernier village d'Armagnac, le village de Goutte donc. Jean Ier d'Armagnac était donc lieutenant du Languedoc, du coup il avait eu ses fonctions au service du roi de France, ce qui ne plaisait pas du tout à Gaston Phoebus. Gaston Phoebus, lui, c'était un rebelle, hein. Il était resté un peu sur ses montagnes. Et Gaston Phoebus, il s'était marié avec Agnès de Navarre. Et voilà qu'il tombe amoureux d'une belle dame. Alors là, ça va m'enchaîner une prochaine chanson. Il tombe amoureux d'une belle dame. Et alors, il a envie de demander au pape d'annuler son mariage. Le pape lui dit, écoute, on verra, arrête de guerroyer contre Jean Ier d'Armagnac, et à ce moment-là, on verra. Donc, du coup, il s'ennuyait dans ses montagnes ariégeoises. Alors, il avait écrit, il n'avait que la chasse pour s'occuper. Alors, il avait écrit un traité sur la chasse. Et il aurait écrit aussi, d'après donc, ce qu'ont rapporté donc, ensuite les traditions, il aurait écrit le Secanto, qui est cette chanson donc, qui est devenue l'hymne. Pourquoi ? Parce que, en fait, voilà que le pape vient à mourir et que son mariage ne sera pas annulé. Du coup, cette chanson, qui est une chanson d'amour, deviendra chanson portée par les troubadours comme une chanson de la liberté, comme une chanson de la rébellion contre la France, une chanson d'amour qui devient donc une chanson identité régionale. Et cette chanson traversera dans les siècles, puisqu'elle a maintenant, dans les 650 ans, est devenue donc l'hymne régional, le Secanto. Alors ça, c'est une version numéro 4, c'est une version personnelle qui démarre par un côté donc, médiéval et qui est ensuite arrangé donc le Secanto. Chanson traditionnelle. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre CD. C'est l'autre CD, c'est le CD Enfin le monde. Et donc numéro 4.
De la Gascogne à la Provence, venu du comté de Foix, il résonne d'espérance pour nous redonner la foi. Devenu chant de résistance à l'oppresseur de différence, pour ceux qui, dans leur bon droit, du pluriel ont fait le choix. C'est canté, yo te canté, canté papelio, canté per mamio, que ça lo est de yo. Aqueros montagno, que tan auto son, men pacho de beire. Mas amor son su. Se cante yo te cante, cante pa per yo, cante per ma mio, que sa lo è de yo. Te yo ma finestro, y a un auselo. Tutto l'anno il canto, canto sa canzù. Se canti io te canti, canti pa per io, canti per ma mio, che sa lo è di io. A che ros montagno, che tan auto son, men pascio de bere, mas amor non so. Se canti io te canti, canti pa per io, canti per ma mio, che sa lo è de io.
e giù ma finestro e hai una meie che fare flus blanco come do papie se canti io te canti canti pa per io canti per ma mio che saluende io Baixa dos montanhos, blaus aos as vos, perché pos que veire, mas amor d'un sul. Se canti io che canti, canti pa per io, canti per ma mio, che saluende io. Nauto ve su nauto, messa bacerà, e mas amoreto, io s'approcciarà. Se canti io che canti, canti pa per io, canti per ma mio, che saluende io.
Alors voilà, ces montagnes sont si hautes qu'elles m'empêchent de voir où sont mes amours. Baissez-vous, montagnes, plaignez-vous que je puisse voir enfin mes amours.
Oui, les auditeurs vont peut-être être un peu étonnés parce que ces cantos, on connaît une autre musique.
Voilà, ça c'est une autre qui s'est un peu ralentie. Oui. Et là, moi je l'ai dynamisée. Donc je fais un passage de la façon médiévale de chanter des troubadours à la façon plus moderne, mais actuellement, de rimer les chansons.
D'accord.
Je suis un troubadour moderne.
Oui.
Et donc, donc le mariage n'est pas annulé. Et donc la guerre reprend. La guerre reprend, nous sommes en pleine guerre de 100 ans en France. Hein. La guerre reprend entre Jean Ier d'Armagnac et donc Gaston Phoebus. La bataille a lieu du côté de Launac, pays des Ormes. Et voilà qu'il y a justement dans mon village, le village de Goutte, village wisigothique, il y a les hospitaliers. Oui ? Pardon ?
Ce village de Goutte m'intrigue.
Alors, ce village de Goutte, village wisigothique, oui. Qui vient de Goutte, oui.
Oui. Est-ce qu'il y a un endroit, un autre village, une autre propriété, enfin, pas comté, mais je ne sais pas, qui ne s'appellerait pas la Stouzeille à proximité ?
Non, ça ne me dit rien.
Non, ça ne vous dit rien. D'accord.
Non, ce village se trouve entre Mauvezin, Maubezin,
oui.
Les mauvais voisins,
Maubezin,
peut-être,
Maubezin,
peut-être
oui.
Les Huguenots. Les mauvais voisins, c'était les Huguenots, je crois. M'a-t-on dit, peut-être. Parce que ce village, notre village était catholique, entouré des Huguenots, puisqu'il y avait deux côtés. Du côté Lectour, c'était les Huguenots. Mauvezin, c'était les Huguenots.
Oui.
D'ailleurs, alors ça c'est plus tard dans l'histoire, donc il y a eu les guerres de religion aussi qui ont frappé notre village. Donc revenons à cette bataille, donc nous sommes maintenant au 14e siècle, et dont la bataille reprend. Dans ce village il y a les hospitaliers qui se sont installés donc à la mort de Louis IX, ils étaient sur l'île de Chypre à l'époque. Et donc, il ne se sentait plus en sécurité là-bas, puisque c'était la dernière croisade que voulait faire Louis IX. Et ils reviennent donc en France. Ici, à Toulouse, il y avait donc les hospitaliers qui avaient un temple. Enfin, et ils avaient une commanderie donc, à Goutte, dans mon village. Et ils ont fait une école de fabrication de remèdes. Ils avaient fait venir un alambic, donc réinventé par un arabe. Et d'ailleurs, alambic, c'est un mot arabe, c'est un terme donc, qui vient de là-bas. Et ils avaient donc appris à fabriquer avec les vignes du village, avec les raisins du village, ils avaient appris donc à faire une médecine en faisant venir des épices d'Orient et aussi en cultivant des plantes médicinales sur la commune. Ils avaient fait donc des liqueurs, ils avaient fait des médecines avec l'Aigardento. L'Aigardento, donc, qui deviendra l'eau de vie. Et qui deviendra Armagnac ensuite appelé, puisque c'était donc cette contrée de Jean d'Armagnac, et puisque nous étions le dernier village du Haut Armagnac, donc de ce territoire. Mais voilà que les soldats qui vont à la bataille, ils sont passés par le village. Et c'était un matin de décembre, il ne faisait pas très chaud sans doute. Ils ont récupéré les tonneaux donc, dans la commanderie, mais ils ne connaissaient pas de l'alcool à 40 ou 50 degrés. Et donc ils sont arrivés guillerés à la bataille, ils ont perdu la bataille. 900 hommes prisonniers ramenés au comté de Foix.
En effet.
Et alors, lors du festin donc au château de Foix, Jean Ier d'Armagnac, premier prisonnier, donc on sert, il n'y a plus de vin, on sert cette liqueur à Gaston Phébus. Fustre, Quesaco, qu'est-ce que c'est cette boisson? Et on le dit, oh, il fabrique ceci en Armagnac. Alors il fait venir le moine, justement, bon. Et puis il dit à Jean Ier, donc, verse-moi une bonne rançon. Alors il était coutume que le vaincu verse une rançon. Il pensait pouvoir ainsi se faire planter des vignes, donc en Ariège. Seulement, c'est qu'en Ariège, il n'y a pas le soleil comme en Armagnac. Jean Ier se dit, bon, il ne va pas me concurrencer avec ses vignes d'Ariège. Il savait qu'il n'y aura pas assez de maturité avant la lune d'automne pour qu'il y ait la maturité pour faire du bon vin. Toutefois, le moine lui fabriquera donc une liqueur qui a été retrouvée de nos jours, qui est l'Hippocrase, donc en souvenir du médecin Hippocrate. Donc ils ont fait là-bas l'Hippocrase, qui est encore une boisson qu'ils ont retrouvée sur des manuscrits de l'époque. Voilà dans l'histoire de la bataille de Jean Ier d'Armagnac et donc de Gaston Phébus. Mm-hmm. Et comment donc nous sommes devenus au service de la France. Et bien ça se continue avec ensuite les mousquetaires.
Oui.
Les mousquetaires, donc, et là on va retrouver D'Artagnan, bien sûr, puisque lui aussi c'était un cadet. Et les cadets de Gascogne sont devenus donc proches de la garde du roi. Et sont devenus les mousquetaires, puisque, alors ça c'était ensuite un peu plus tard, je crois que c'était Roquelaure, le maréchal de Roquelaure qui était un ami d'Henri IV. Et donc il fondera la commanderie, la confrérie, je ne trouve pas mes mots, voilà, la mousquetaire, quoi, le club des mousquetaires. Et bon, voilà, on connaît donc l'histoire de D'Artagnan qui deviendra. Donc le fameux batailleur gascon, puisque lui, il servira trois rois après Henri IV, donc Louis XIII et Louis XIV d'ailleurs.
Mais s'il vous plaît, je suis un peu étonnée, l'histoire de Gaston Phébus, il était donc marié, il avait voulu faire annuler son mariage, il était marié avec ?
Il était marié avec Agnès de Navarre.
Avec Agnès de Navarre.
Voilà. Ça c'était pour pouvoir annexer Pyrénées.
Oui. Mais il n'avait pas épousé avant ou après, je ne sais pas, une princesse orientale ou maghrébine.
Je ne connais pas toute son histoire, j'ai simplement vu qu'il voulait faire annuler son mariage. Et voilà, donc moi ça m'a fait ma petite histoire romancée, bien sûr, puisqu'il y a une part invention, mais je pense que c'est assez proche de la réalité, mes contes historiques.
Oui, mais bon, c'était une histoire qui avait fait l'objet d'un film il y a, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, une quarantaine d'années. Et on était un petit peu sensibilisés à cette histoire parce que il y a un château de Gaston Phébus à Pinsaguel.
Alors celui-là, je ne le connais
tout
pas.
Près d'ici.
D'accord.
Et on disait que ça appartenait toujours à la famille de Mariem de Béarn, qui était donc l'épouse ou la seconde épouse ou l'épouse morganatique, je ne sais, donc de Gaston Phébus.
D'accord. Moi,
je
n'ai pas étudié toute l'histoire de Gaston Phébus, mais voilà. Donc, ok.
Et ben, c'est qu'il avait deux vies, hein, comme beaucoup d'hommes.
Voilà. Mais bon, moi, ça me semblait important, l'histoire du Secanto, puisque c'est lié aussi à cette histoire, puisque c'est celle quand même qui marquera l'Occitanie, cette chanson colportée ensuite par les ménestrels et les troubadours, le Secanto. Voilà pour la partie donc, de la Gascogne. Et donc, qu'est-ce que nous allons enchaîner? Nous allons enchaîner les remembrotés, puisque on va revenir sur les troubadours.
Oui. Alors, on va
c'est le numéro 2 d'Enfin le Monde.
Numéro 2, d'accord. Eh bien, j'ai mon lecteur qui est... Ah, ça y est, je crois qu'il a compris. On va essayer.
L'autre CD.
D'accord.
Donc, l'un, c'est Les Roses et le Laurier, l'autre, c'est Enfin le Monde. Hein, alors.
D'accord.
Donc, Enfin le Monde, c'est... Alors ceci, c'était joué avec une guiterne. Guiterne, c'est un instrument médiéval qu'on retrouvait, donc j'ai fait construire par un luthier, qu'on retrouve sur les violentos des églises, donc une reproduction de l'instrument de l'époque. Et voilà, avec ce texte qui donc, parle des troubadours, quoi, donc des troubadours qui, dont dans la mémoire, rappelle-toi, donc des troubadours, rappelle-toi de la ville de Lumière, Toulouse. Si on fait le mot en occitan, Toulouse, c'est toute la Lutz, Toulouse, toute la lumière. Alors voilà, est-ce que Toulouse a une lumière particulière? Alors là, je pourrais rencontrer, mais peut-être, je ne sais pas si je vais le raconter aujourd'hui ou pour une autre émission, l'histoire un petit peu des constellations au niveau astronomique et les figures. Et là, ça rentre dans un autre sujet qui est la géobiologie. Et donc, le rapport entre la Terre et les étoiles. Alors, je ne sais pas si je vais aborder ce sujet aujourd'hui ou si on le garde pour notre émission. Mais en tout cas, donc Toulouse, toute la Lutz. Toulouse est une ville donc, où a été fondée après le catharisme, puisqu'après nous sommes devenus Languedoc français. Mais là, c'est par la guerre, ce n'est pas par l'alliance, c'était par la guerre et donc par la croisade des Albigeois. Où donc avait été lancée une guerre entre le Nord et le Sud, commandée par le pape et le roi de France. Et donc ils voulaient éradiquer soi-disant les cathares, les hérétiques, ils appellent ça les hérétiques. Il faut dire que Toulouse était une ville plus riche, et le Sud était plus riche que le Nord. Parce que comme il y avait la tolérance, comme il y avait la convivencia, les religions se côtoyaient, les musulmans, les juifs, les chrétiens, et donc du coup ben, c'était une ville où le commerce était florissant, et donc du coup on était plus riche dans le sud que dans le nord, et du coup ça fait donc venir les jalousies des parents du nord et du roi. Voilà, donc la guerre a duré 35 ans, et c'est fini par le bûcher de Montségur, 200 cathares, 200 parfaits brûlés sur le bûcher de Montségur. Donc quelques années donc après, 1244, enfin presque un siècle après, donc sept troubadours, et donc Toulouse porte la, il y a une rue qui porte la rue des sept troubadours, fondent l'Académie des Jeux Floraux, la première donc académie dans le monde de poésie, montée par des troubadours, les Jeux Floraux, voilà. Voilà dans l'histoire poétique. Alors Toulouse donc... Après, qu'en dire de Toulouse? Eh bien, aussi, c'est sur les chemins de Saint-Jacques. Alors, c'est sur la voie d'Arles. sommes sur la... Dans, ça remonte donc à un peu relancer, bon ça c'est très ancien, hein, ces chemins de ça remonte d'abord... Pardon ? Compostelle, oui, c'est très ancien. Sans doute même avant que ça ait été relancé par Charlemagne, qui était empereur, donc il avait 700 abbayes sur son territoire. Donc pour relancer un petit peu l'économie, voilà, il a relancé le chemin de Saint-Jacques. Mais c'était des pratiques très anciennes. Si on remonte à l'origine de l'implantation du christianisme, on va d'abord retrouver les lieux celtiques. Et on va retrouver, alors là, on va reaborder le côté de la géobiologie, c'est-à-dire les lieux sacrés, et donc les lieux de... on va dire énergétique sur les courants, voilà. Mais là, ça sera peut-être un autre sujet, hein, puisque là, on rentre un peu dans un autre domaine. Juste pour dire que dans Toulouse, eh bien, c'est sur un des chemins de Saint-Jacques, et nous avons à Toulouse le plus grand édifice, Saint-Cernin, le plus grand monument, paraît-il, du chemin de Saint-Jacques. Donc Toulouse est quand même une ville particulière au niveau de tout son patrimoine, de toute son histoire. Voilà, donc rappelle-toi des troubadours et rappelle-toi donc de la lumière de Toulouse sur les chemins. Puisqu'on parle du chemin de Saint-Jacques, eh bien je vais vous raconter un petit peu l'histoire du le conte d'Hercule. C'était un dieu, Jupiter, dieu des dieux, dieu de la foudre, qui eut enfant avec une terrienne. Junon en fut jalouse. Alors elle mit dans le berceau du bébé, le bébé qu'on appela Hercule, elle lui mit des serpents dans son berceau. Mais lui, pendant la nuit, il avait été le lait de la déesse, et il avait été son sein pendant qu'elle dormait, et alors il a tout fait de se débarrasser, ne connaissant pas la peur, il a tout fait de se débarrasser des serpents, et il avait déjà appris à qui une bonne force. Alors il était un beau jeune homme, et beaucoup plus fort que les géants. Quand il fut adulte, on lui imposa 12 travaux. L'un de ces 12 travaux était de venir en Gascogne, pour chercher les bœufs aux cornes d'or. Donc il arriva par le sud, depuis l'Afrique, du pays des Berbères, passa par le détroit, qu'on appellera le détroit de Gibraltar, et il arriva dans un pays de collines verdoyantes et de plantées de vignes et d'oliviers. Il y rencontra Pyrène, une belle jeune fille brune. Alors ses parents, en voyant sa stature, se dirent « Mais peut-être qu'on pourrait l'inviter à rester à la ferme pour s'occuper des oliviers et des vignes. Il pourrait, a vu sa force. » Et alors il invita un festin. Après le festin, ayant bien bu, il va faire la sieste avec Pyrène près d'une rivière sur la mousse. Pyrène a fait un onguent d'huile d'olive. Elle a fait macérer des plantes médicinales, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. En fait, mauvaises herbes, ça vient de l'inversion des mots. Herbe pour les mots, c'est-à-dire herbe pour soigner les mots. Et pas, ce n'est pas les herbes qui sont mauvaises, c'est parce qu'elles soignent les mots. Avec l'inversion des langages, on comprend mal les choses. Et voilà donc, elle lui fait des massages. Bon, je ne vais pas raconter tout ce qu'ils ont eu comme ébats, on s'en doute, mais ils vont dormir assez tard jusqu'à la nuit et jusqu'au matin, profondément. Et au petit matin, il se réveille pour partir continuer sa quête de chercher les bœufs aux cornes d'or. Alors, il y a une trace dans le Gers qui porte encore l'histoire du passage des bœufs. C'est des villages qui s'appellent, à partir de Montségur, si on fait une ligne droite, on va retrouver dans le Gers Laurette, c'est le meneur des bœufs, et Escornebœuf, qui est donc, qui porte bien le nom du bœuf. Et dans l'alignement, on va trouver le village de Goutz avec un lieu qui s'appelle le Bétette. Le Bétette, c'est le petit veau. Et donc, on va retrouver donc, ce village assigné, le Goutz aussi, village des Visigoths. Lorsque elle se réveille, Pyrène, elle se croit abandonnée. Alors elle part à sa poursuite, mais elle tombe dans un ravin pour la peur des ours. Oui, il y a non loin de là le Mont Morin, le Mont des Morts, où il y a la rivière qui a creusé des gorges, et où il y a des tas de grottes où avait été trouvé donc un lion des cavernes, et plein d'animaux donc ont vécu dans ces grottes, et même les humains y vivaient déjà il y a 300 000 ans, puisqu'on a trouvé donc des mâchoires humaines là-bas. Et donc dans ce lieu occupé par les très anciens, parce que c'était un climat un peu plus tempéré dans ces époques glaciaires. Et donc voilà, donc là il y a plein de grottes, et voilà qu'elle tombe dans ce ravin. Alors elle pousse un grand cri, Hercule entend les cris de sa belle, il revient sur ses pas en faisant rouler les rochers, mais Elle est morte dans la chute. Alors il la prend dans ses bras, il la ramène chez elle et il lui fera un tombeau avec les rochers. On appellera ce tombeau les Pyrénées. Voilà donc la légende, le conte d'Hercule.
Très joli. Il y en a d'autres légendes, d'autres contes comme ça?
Alors,
Conte historique.
Alors, bon, je garderai ce sujet pour une prochaine émission, pour ce qui est de toute cette histoire des bœufs. Mais il y a pas mal d'histoires par rapport aux bœufs, justement.
Les bœufs, tout à l'heure, vous parliez de le veau qu'on appelait bétête.
Le bétête.
Oui, ça n'a pas donné bétail par hasard, hein.
Ah, mais c'est possible, oui, oui, c'est la même étymologie, oui,
la
bétail.
Racine,
oui. Alors, un autre conte, c'était... Alors là, on va aller du côté de l'époque d'Henri IV. Donc, à cette époque-là, c'était les guerres de religion. Alors, les guerres de religion, elles ont été aussi importantes dans mon village, le village de Gousse. Et donc, à l'époque, ils ont même détruit... les Huguenots, il y a eu une guerre, ils ont brûlé l'église, ils ont détruit la commanderie, qu'ils ont été obligés ensuite de déménager. Mais la commanderie avait été rachetée par la mère de d'Henri IV. Et donc, ces périodes de guerre, c'est aussi des périodes de disette. D'autant plus qu'en même temps, ils avaient la monoculture, ils n'avaient pas tellement la diversité des cultures, encore comme on y revient maintenant, un peu à la monoculture qui fait qu'on appauvrit donc les sols, parce que c'est la biodiversité et c'est la rotation des cultures qui fait que le sol il s'enrichit. Donc, il était une fois un homme qui devint le jardinier du roi, le hasard du destin. C'était un baladin, il s'appelait Robin. À cette époque-là, c'était temps de disette. Les gens ne mangeaient plus à leur faim, car depuis plusieurs années, il y avait sécheresse et dans les champs, il n'y avait plus un grain. Non loin du jardin du roi, il y avait une forêt noire. Il devait y avoir une drôle d'histoire. Plus aucune feuille sous les arbres, mais des milliers de chenilles qui les avaient mangées. Le baladin, qui s'appelait Robin, s'assied au coin du bois. Un arbuste lui parla. Un arbre qui parle, il n'avait jamais entendu ça. Oui, l'esprit de l'arbre. Oui, les arbres ont un esprit. Coupe-moi cet arbre mort, lui dit le petit arbuste. En effet, il y avait un laozero qui était mort à cause de la sécheresse. Laozero, c'est l'arbre à musique. C'est l'arbre avec lequel on se fait les instruments. Alors, il coupe un rondin parce qu'il était creux. Il met dessus une peau de chèvre, s'en fait un tambour et se met à jouer. Tomba, tomba, va, tomba, tomba, tomba. Voilà qu'il fait tomber la pluie. Mais continue, continue, dit l'arbuste au baladin. Mais pourrais-tu me jouer un air de flûte pour chasser ce vilain Belzébuth, le démon de la forêt? Alors il se met à jouer de sa flûte et aussitôt toutes les chenilles se transformèrent en papillons. Mais continue, continue, dit l'arbuste au baladin. Mais pourrais-tu maintenant me faire un air plus cristallin? Alors il se prend une planche, il met dessus quelques cordes, se fait un nouveau instrument, se met à jouer et voilà que dans tout le jardin du roi, on vit un parterre de papillonacées, des fleurs semblables à des papillons. Mais continue, continue, dit l'arbuste au baladin. Comme il ne savait plus quoi se faire comme instrument, eh bien il se mit à chanter pour continuer le chantier. Chantier vient probablement du mot chanter, puisqu'autrefois on chantait dans les chantiers. De la la no ya un pin, de la la no ya un pin, de la la no ya un pin, de la la no ya un pin. Boli beza boli ana, beza los pins, como verde jean. Boli beza boli ana, beza los pins, a verde jean. De la la no ya des pin, de la la no ya des pin, de la la no ya des pin, de la la no ya des pin. Boli beza boli ana, beza los pins, como verde jean. Boli beza boli ana, beza los pins, a verde. C'était des chansons traditionnelles qu'on appelle les chansons de Neuf. Ces chansons, ça porte une énergie. Et alors, voilà que dans tout le jardin du roi, sur chaque papillonacée, on vit des gousses pleines de graines. Alors, le baladin ramassa toutes les graines pour en donner 8 à chaque habitant du pays. Une pour le lundi, une pour le mardi, une pour le mercredi, une pour le jeudi, une pour le vendredi, une pour le samedi, une pour le dimanche. Ils en avaient pour tous les jours de la semaine et il leur en restait une 8e graine. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien en faire? Alors c'est là que je demande aux auditeurs, mais je ne sais pas s'ils vont me répondre, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de la 8e graine? S'ils veulent téléphoner, peut-être qu'ils ont une idée, mais sinon je vais donner la réponse. Eh bien voilà, ils l'ont planté là, la 8e graine. Et ainsi, il y a eu de nouvelles pousses, il y a eu de nouvelles gousses. Grâce donc à cette graine, ils n'auront plus jamais faim. Et c'était donc là la magie de la nature, puisque nous, les papilionacées, nous avons dans cette famille tout ce qui est les légumineuses, puisque ce nouveau légume on l'appellera les légumineuses. Nous avons le petit pois, le haricot, donc riche en protéines, qui donc fera que passer d'un régime trop céréalier, on passe à un régime plus diversifié avec des plantes qui apportent plus de protéines. Alors qu'est-ce qu'elles ont ? Ça c'est la magie de la nature. Comment fait la nature pour... chaque plante en fait a une mission. Celle-ci, en fait, elle va, avec des nodosités qui sont sur les racines, elle va fixer l'azote de l'air. Alors qu'est-ce que c'est le corps humain, hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau, 75% d'eau, H2O. Hein. Après c'est de l'azote, puisque ça ferme l'azote qui est fixé donc, par les plantes, mais ça donne quoi ? Les protéines. Donc nous sommes en fait à 90% ou 99%, nous sommes de l'air, hein. Nous sommes un élément cosmique, nous venons de tous les éléments qu'on va trouver dans l'invisible, dans l'air. Voilà, dont les plantes fixent, chacune va fixer des éléments, et c'est donc celle-là qui fixe l'azote de l'air. Alors, on va passer à quoi ? On va passer à Bufarat, et on va parler un peu des cathares. Alors, on va passer le numéro 7 de Enfin le Monde, sur le CD Enfin le Monde, le deuxième, hein.
À la fois français et occitan, j'avais au fond du cœur un tourment. En 2009, cela fait 800 ans que blessés dans l'honneur furent les occitans. Ici furent combattants pendant 35 ans pour une erreur de jugement. Du vaincu au vainqueur, tous les deux sont perdants de ne point partager le meilleur du moment. À Montségur, je suis allé méditer un printemps et l'esprit en retour m'a parlé ardemment. Alors, j'ai prêté l'oreille au vent. Et voici un récit maintenant.
Vous avez pardonné et sommes partis en paix. Nous avons pardonné, sommes partis en paix. Tant pis que pour l'Omespresse, tant pis que pour notre sort. A mes jours de respirer, à ouen à ma gâte trésor. Tant pis pour le mépris, tant pis pour notre sort. Avec jour de répit, avons caché trésor. À ouen à ma gâte écrit, la colombe et l'or. Avons caché écrit, la colombe et l'or. Il y a aussi à qu'hésite. La couleur de l'aurore biffera l'esprit, l'esprit espasmo, un jour sera repris. La couleur de l'aurore ressoufflera l'esprit, notre esprit n'est pas mort. Au cœur de Wait Senzan, quand on est là le moment, quand viendra sa zone, ne nous verra zone. Au bout de 800 ans, quand viendra le moment, quand viendra la saison, de nouvelles raisons. Nous tant des plans comprenez, qu'amour et vous apprenez, naissez la nouvelle thème, des respects, des partiments. Le temps de bien comprendre, qu'amour et vous apprendre, naîtra le nouvel âge, du respect, du partage, des visos de toujours, del cantonal trovador, per canta poésie, per des nouvelles esprits. Devise de toujours, des chanteurs troubadours, pour chanter poésie, pour de nouveaux écrits, per canta poésie, per de nouvelles escrits.
Alors enfin content, de cette denrée rare, de retrouver l'esprit cathare, d'être dans l'entendement, fini les jugements.
Alors ceci donc c'est l'esprit des cathares donc. Et là, ben, les cathares eux ils croyaient à la réincarnation. Voilà, mais ça sera encore un autre sujet, ça, qu'on abordera peut-être à une autre émission aussi. Et donc, c'était, 244. À peu près, 700 ans sont passés. Donc là, je reviens donc sur la légende au cap des 700 ans, Beljal Oulaouliye. Et donc, j'ai été inspiré, là, par... J'étais à Montségur et j'ai voulu écrire un parc dans le Qatar, quoi. Et quelques années après, l'évêque de Pamiers, il a demandé pardon par rapport à cet acte de l'Église, justement, contre les Qatars. Et donc, la boucle est bouclée, quoi. Ce génocide, puisque c'était quand même à l'époque un génocide, quoi, a été reconnu et a été donc peut-être effacé un peu de notre esprit, parce que chez les Occitans, c'était mal vécu, déjà d'être vaincu par la guerre dans la France, entre le Nord et le Sud. Donc d'avoir été vaincu, c'est pas agréable. Et je crois que ça restait dans les consciences encore, de cette histoire de vaincu et cette histoire de génocide. Et donc du coup, ça a apaisé, quoi, un petit peu, je pense, les Occitans, de cet acte de l'évêque qui a reconnu que l'Église avait fait une erreur à l'époque. Voilà, donc ça a effacé un peu ça. Et donc, nous sommes sans doute vraiment dans la prédiction, au bout de 700 ans, reverdira le laurier, et donc, renaissance de l'esprit occitan. Et voilà, ça fait quelques années qu'a été montée la maison d'Occitanie à Toulouse, hein. Donc, avec l'aide du département, de la région et de la ville de Toulouse. Et donc, il y a un bel hôtel, maison d'Occitanie, où nous-mêmes, notre compagnie, avons notre siège, qui est la Compagnie Artemus. Compagnie Artemus, dont nous avons repris l'esprit des troubadours, l'esprit de la flamme, donc, poétique. Et nous faisons de la programmation de spectacles pour les enfants, pour les arbres de Noël, mais aussi des spectacles en nature. Donc on a ces deux activités, on va dire, donc le patrimoine naturel, le patrimoine historique, et au niveau des spectacles en salle, l'interculturalité, donc l'ouverture au monde, donc pour la convivencia, donc toujours dans l'esprit de Toulouse, dans l'esprit de la rencontre des cultures. Et donc là, on va présenter un spectacle à la salle Saint-Subra cette semaine qui vient, le mardi, mercredi. En matinée, il y aura Estella, donc une de la compagnie, qui va faire un spectacle sur Halloween à 10h. Et l'après-midi, à 14h30, il y aura un spectacle qui est Le Voyage de Peter Pan, qui est un voyage interculturel, un voyage musical autour de la Terre, donc qui introduit dans le paysage des contes et aussi dans l'ouverture au monde, donc allusion à l'Afrique, allusion à l'Amérique, aux Indiens, allusion au pays du soleil levant, allusion au pays d'Aladin, allusion au pays du froid, voilà. Donc ça, c'est à 14h30, mardi et mercredi, à la salle Saint-Subra, donc nous a prêté la mairie de Toulouse. Sympathique la mairie de Toulouse, parce qu'elle a beaucoup de salles qu'elle peut prêter aux associations, donc ils veulent faire du culturel. C'est une ville à ce niveau-là que j'aime bien, parce qu'elle a vraiment une ville culturelle, et une ville qui a donc pas mal de patrimoine, une belle ville, donc Toulouse, avec tous ces hôtels de l'époque du pastel. Voilà, c'est encore...
Énorme patrimoine.
Non, le patrimoine. Que dire de plus? Je disais, alors donc, le côté donc interculturel et le côté patrimoine. Alors là, je reviens un peu plus loin dans l'histoire de l'Occitanie, puisque là, je suis parti au Bois des Houx, donc on m'a présenté comme Charlot du Bois des Houx, à Montmorin. En fait, Montmorin, c'est la plus vieille commune, on va dire, d'occupation humaine pratiquement de ce coin d'Occitanie, puisqu'a été trouvée là-bas une mâchoire de 300 000 ans, et a été trouvée une Vénus de la préhistoire, qu'on appelle la Vénus de l'Espuc, qui est une Vénus, une dame à plusieurs faces, trouvée dans une grotte. Donc dans ces grottes où avaient été trouvés ces lions des cavernes du comte d'Hercule. Et a été trouvée cette Vénus, un lieu très ancien. Et là, il y a des gorges où nous avions pendant 10 ans, nous avions mené des enfants pour des balades contées, plutôt des spectacles itinérants, hein, où les enfants partaient à la recherche d'une princesse qui se faisait enlever par un méchant sorcier, transformée en bête. Et donc, il fallait aller délivrer la princesse dans cette vallée enchantée. Et nous repartons là-bas pour refaire un petit peu des animations de ce territoire, puisque le Comminges donc se réveille un petit peu avec son patrimoine très intéressant au niveau patrimonial, préhistorique, gallo-romain et médiéval.
Gallo-romain
et environnemental.
Oui. gallo-romain, oui, moi j'ai découvert, ce que je croyais le plus ancien dans la région avec la villa gallo-romaine de Montmorin.
Oui.
Oui. On peut en avoir quelques nouvelles, quelques détails.
Alors, la villa gallo-romaine se visite toujours,
oui.
L'État est en train de refaire un musée, donc, puisque la collection avait des fouilles de la villa et des sites préhistoriques avait été rachetée par l'État. Donc actuellement, ils sont en train de rénover et de refaire le musée d'aménager aussi le deuxième site, puisqu'il y a deux sites gallo-romains. Un site qui était à l'entrée des gorges, qui était d'une deuxième villa, ou peut-être des thermes romains, puisqu'il y avait la source sacrée qui était devenue le culte aussi aphrodite à l'époque, probablement le culte celte aussi, puisque tous les cultes féminins y sont passés, et le culte à Marie avant Lourdes. Donc l'origine, en fait, des cultes mariales, féminins, c'est Montmorin aussi, quoi, puisque c'était le plus ancien lieu d'occupation humaine. Et là, on va rejoindre, mais ça sera le deuxième sujet encore, ça, on va rejoindre la fertilité et on va rejoindre le côté du taureau, mais le lien avec les étoiles. Voilà. Mais ça, ce sera le prochain sujet aussi, le côté astronomie qui a donné toutes les légendes au niveau du taureau. Dont j'en ai raconté une, c'est le d'Hercule. Ce lieu très, très intéressant au niveau de son patrimoine et aussi au niveau de l'environnement, puisqu'il y a le plus grand nombre de vieux arbres qui se trouvent en Comminges, justement. Et donc, nous avons l'année prochaine, nous avons émis cette idée que pour les journées du patrimoine, nous ferons un événement sur l'arbre, sur les arbres. Alors voilà, donc mise en scène d'un lieu. Alors peut-être on cherche un lieu du côté de Toulouse, un lieu intéressant au niveau du patrimoine des arbres. Et probablement aussi là-bas, dans le secteur du Comminges, puisque aussi l'idée, c'est de créer un pont entre le côté urbain et le côté rural, pour faire aussi revivre aussi les zones rurales. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas, pour faire un pont entre la ville. Je suis très, très attaché à Toulouse, très intéressé par ce qui se passe à Toulouse, mais aussi très attaché au Comminges, qui a ce magnifique environnement et ce magnifique patrimoine. Donc, futur, voilà, on cherche des partenariats pour ce futur projet l'année prochaine sur les arbres, voilà. Puisque notre cheval de bataille, c'est l'histoire, mais c'est aussi le patrimoine et l'environnement. Donc, si l'arbre peut être considéré comme du patrimoine, il y a quelques arbres classés d'ailleurs dans le coin, ouais. Et c'est bien aussi qu'on reconnaisse que l'arbre a une importance, parce que c'est lui qui nous fait l'oxygène, qui nous fixe le carbone et qui stocke dans le carbone, et donc par rapport au problème de la couche d'ozone et par rapport au problème du réchauffement de la planète, c'est important qu'on plante des arbres, et c'est important que l'arbre il soit vraiment reconnu dans sa place, puisqu'on a beaucoup arraché avec le progrès agricole, avec
pour construire l'urbanisation.
L'urbanisation, ça, tout ce qu'on arrache aussi dans l'Amazonie, parce qu'on va chercher tout ce qui est dans le sous-sol et on arrache les arbres. Oui. Et donc on crée beaucoup de problèmes au niveau environnemental en arrachant les arbres. Donc il est important de comprendre que les arbres ont une grande importance sur Terre, et qu'il est important de replanter et non pas d'arracher. Voilà. Donc on en a pris un peu conscience, on remet des dans le GERS, là, il y a des associations qui replantent des, parce qu'à une époque, voilà, on avait le progrès, on rasait tout, on arrachait tout. Et après on s'est rendu compte que voilà, et donc ça va amener un autre compte, ça.